vous écoutez RFI, il est 6h à Paris, 5h en temps universel et minuit à Washington.
RFI Matin.
Bonjour Marion Kazanov.
Bonjour Andréane Mellard.
1h40 de discours, le président américain vante le bilan de son début de mandat et rappelle ses ambitions pour les 4 ans à venir.
Guerre commerciale, immigration, Ukraine. Devant le Congrès, Donald Trump a longuement évoqué les dossiers qui animent son début de mandat. Il concède aussi que les taxes douanières qu'il vient d'imposer provoqueront quelques perturbations. La Ligue arabe adopte un plan pour reconstruire Gaza et prévoit notamment le retour à terme de l'autorité palestinienne dans l'enclave. Dans l'est de la RDC, près d'1,5 million d'écoliers privés de cours. Le conflit a détruit de nombreuses écoles. Bien d'autres sont utilisées pour abriter des déplacés. Dans ce journal, on verra également que les plus gros producteurs d'énergie fossile émettent de plus en plus de gaz à effet de serre. Et puis on terminera avec un aperçu d'Atacama, le nouvel album de la chanteuse et compositrice Clélia Abraham.
Sous des applaudissements presque continus, Donald Trump déroule ses ambitions politiques.
Le président américain a livré son discours de politique générale devant le Congrès. 1h40 de discours. L'âge d'or de l'Amérique vient seulement de commencer, promet-il. Sur le dossier ukrainien, il affirme avoir reçu une lettre du président Volodymyr Zelensky dans laquelle il se dit prêt à s'asseoir à la table des négociations dès que possible pour une paix avec la Russie.
Et Donald Trump, qui est surtout revenu sur la guerre commerciale qu'il a lancée.
25% de droits de douane pour le Canada et le Mexique, 20% pour la Chine, en plus des taxes déjà existantes, et d'autres tarifs douaniers sont à venir.
Si vous ne fabriquez pas vos produits aux États-Unis, alors sous l'administration Trump, vous paierez un tarif douanier, et dans certains cas, un tarif assez élevé. D'autres pays ont utilisé des tarifs douaniers contre nous pendant des décennies, et c'est maintenant à notre tour de commencer à les utiliser contre ces autres pays. C'est ce qui se passe entre amis et entre ennemis. Le système n'est pas équitable pour les États-Unis. Il ne l'a jamais été. Et c'est pourquoi le 2 avril, j'aurais voulu que ce soit le 1er avril, mais je ne voulais pas être accusé de faire un poisson d'avril. Le 2 avril, les droits de douane réciproques entreront en vigueur. Et tout ce qu'ils nous imposent à nous, les autres pays, nous leur imposerons. Nous les taxerons. C'est la réciprocité. Tout ce qu'ils nous taxent, nous le taxerons.
Donald Trump, le président américain, qui a aussi admis devant le Congrès que ses droits de douane pourraient provoquer quelques perturbations.
Puisque certains ne vont pas se laisser faire, le Canada hier a riposté et va imposer des taxes de 25% sur les produits américains. Les produits américains, certaines provinces comme l'Ontario et le Québec ont même commencé à retirer de l'alcool américain de leurs supermarchés. Cette guerre commerciale justement inquiète aux États-Unis où le coût de la vie est déjà élevé, témoignent ces consommateurs de Géorgie rencontrés par Edouard May.
Devant un supermarché, Ariana charge ses courses dans le coffre de sa voiture. Les œufs, les chips, les jus de fruits, tout est tellement déjà cher, dit la mère de 3 enfants, originaire du Mexique, et elle craint une augmentation des prix avec les droits de douane.
Les personnes avec des revenus modestes ne vont pas réussir à remplir leur panier. Ce sera plus dur d'acheter les produits du quotidien. Déjà avec 100 dollars, vous n'avez rien. Il faut mettre 300 ou 400 dollars pour pouvoir nourrir 5 personnes pendant une semaine.
Une inquiétude partagée par Debbie, qui anticipe déjà devoir faire des concessions.
Je ne me vois pas payer 2 dollars pour un avocat quand on en avait 5 pour 1 dollar avant. Je vais laisser tomber certaines choses et n'acheter que ce qui est nécessaire.
En plus d'augmenter les prix, dit Charles, Donald Trump détériore les relations économiques mondiales.
Il nous isole de nos alliés. Le Canada et le Mexique ont été de très bons alliés jusque-là, même si la relation n'était pas parfaite. Et c'est pareil avec les pays européens.
Face à ces mesures, Charles comprend que les pays concernés mettent en place à leur tour des droits de douane sur les produits américains. Edouard May Cumming en Géorgie, RFI.
Dans son discours, Donald Trump a aussi promis de récupérer le canal de Panama.
Il se félicite du rachat de 2 ports autour du canal, vendus par la société hongkongaise Hutchinson à l'américain BlackRock. Hutchinson était présent au Panama depuis 1997 et sa concession de 25 ans avait été renouvelée en 2021, Grégoire Pourtier.
Les autorités panaméennes se sont contentées de prendre acte de la vente prochaine des 2 ports gérés par la société hongkongaise Hutchinson aux 2 extrémités du canal de Panama. Il s'agit d'une transaction globale entre 2 sociétés privées motivées par leurs intérêts mutuels, a réagi la présidence du petit pays d'Amérique centrale. Le communiqué indique seulement que le gouvernement veillera à ce que les régulations et lois locales soient respectées. Mais le texte précise surtout que l'audit actuellement en cours sur le fonctionnement de ces deux infrastructures sera malgré tout finalisé. Cette inspection avait été diligentée il y a quelques semaines alors que Donald Trump avait mis la pression dénonçant une emprise de la Chine sur le canal. L'accusation avait surpris puisque le Panama a toute autorité sur le canal et que Hutchison ne gérait que deux des ports de la zone, l'un des trois autres étant même déjà exploité par une société américaine. Le géant hongkongais a assuré que son retrait du Panama n'avait rien à voir avec les menaces de Trump, à voir désormais si le probable rachat des ports de Balboa et Cristobal par le consortium mené par BlackRock suffit à satisfaire le président américain. Grégoire Portier, Panama, RFI.
Et résultat, l'action d'Hutchison flambe en bourse. Son titre s'envole de 25%. Le président américain a partagé il y a quelques semaines un plan pour Gaza qu'il imagine sous contrôle américain, prévoyant une expulsion des Gazaouis hors de l'enclave. La Ligue arabe, réunie en sommet au Caire, y a répondu hier avec son propre plan de reconstruction. Elle met en garde aussi contre des tentatives de déplacement de population et souhaite à terme le retour de l'autorité palestinienne dans l'enclave en mettant donc le Hamas à l'écart.
Le conflit dans l'est de la RDC continue de jeter sur les routes des milliers de personnes.
414 000 déplacés dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, selon l'ONU, qui accuse le M23 d'avoir fait évacuer des camps de déplacés. L'ONU estime aussi que 80 000 personnes ont fui dans des pays voisins, en majorité au Burundi. Le secteur éducatif aussi est lourdement frappé. De nombreuses écoles ont été détruites, d'autres accueillent des déplacés. Près d'1,5 million d'élèves sont privés de cours. C'est le gouvernement congolais qui l'a annoncé hier soir lors d'une conférence de presse. Écoutez Raissa Mali, la ministre congolaise de l'Éducation nationale.
On a des écoles qui ont été détruites suite au bombardement, des centaines d'écoles qui sont occupées par les groupes armés dans le nord et le sud Kivu, les écoles qui sont occupées par les populations déplacées, pas seulement dans les zones directement affectées, mais également dans les provinces éducationnelles à côté. On a aussi eu à déplorer une école qui aurait servi de cimetière. On a des écoles pour lesquelles les tableaux ont été détruits, les bancs servant de bois de chauffe, les portes des latrines, etc. Cette situation de guerre met à mal le travail qui a été réalisé ces dernières années pour améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Ici, c'est un double crime. On affecte les enfants maintenant et le fait qu'on leur prive de leur scolarité, cela rend extrêmement difficile la société plus tard. L'éducation doit rester sacrée. Donc il y a des écoles qui ouvrent et on voit que les parents gardent encore majoritairement leurs enfants à la maison. On n'a qu'une présence autour de 50% des enfants dans les écoles, ce qui montre bien à quel point le sentiment d'insécurité reste très élevé.
Raissa Mali, la ministre congolaise de l'Éducation nationale.
En Chine, en Inde ou en Arabie Saoudite, les gros pollueurs s'en donnent toujours à cœur joie.
Ils émettent de plus en plus de gaz à effet de serre, selon le groupe de réflexion britannique Influence Map. Dans une étude publiée aujourd'hui, il indique que les plus gros producteurs de gaz, pétrole, charbon et ciment font augmenter ces émissions. Et en plus, Jeanne Richard, plus de la moitié d'entre elles sont attribuées à seulement 36 entreprises.
Ce sont surtout des entreprises publiques qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Dans le top 5, on retrouve les compagnies pétrolières nationales d'Arabie Saoudite et d'Iran, mais aussi le producteur de charbon indien Coal India et deux entreprises chinoises, China Energy et Jinan, qui produisent également du charbon. À elles seules, ces cinq entreprises ont été responsables de plus de 17% des émissions de CO2 dans le monde en 2023. Côté privé, les majors ExxonMobil, Chevron, Shell, Total Energy et BP ont représenté, elles, presque 5% des émissions mondiales de CO2. Dans le reste du classement, ce sont les entreprises chinoises qui sont les plus nombreuses, ce sont elles qui ont le plus contribué au réchauffement global cette année-là. Finalement, l'étude souligne l'impact disproportionné d'une poignée d'entreprises sur une crise qui ne fait que débuter, alors que la planète risque de devenir rapidement invivable à cause du changement climatique et que les scientifiques alerte sur la nécessité de baisser drastiquement la production d'énergie fossile.
Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. BP vient d'abandonner ses objectifs de neutralité carbone et compte réinvestir massivement dans les énergies fossiles. Les pays pétroliers de l'OPEP+, eux, annoncent relancer la production.
RFI 6h09 à Paris, le journal de Marion Cazanov. Marion, la brouille entre la France et l'Algérie continue de diviser la classe politique française.
Au sein même de l'exécutif, puisque le président Emmanuel Macron a recadré son premier ministre, François Bayrou, et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, le chef de l'État refuse toute dénonciation des accords de 1968 qui facilitent l'immigration des Algériens, tandis que Matignon menace de rompre ces mêmes accords si Alger refuse de reprendre ses ressortissants expulsables. Deux positions qui s'opposent et qui ont été débattues hier au Sénat, Raphaël Delvolvé.
Le président a plus les faveurs de la gauche, le communiste Fabien Gay le dit à sa manière.
Entre la peste et le choléra, je suis plus proche des propos d'Emmanuel Macron que de ceux de Bruno Retailleau. Nous avons le rapport à la colonisation. C'est un sujet pour beaucoup qui est encore extrêmement douloureux 60 ans après.
Incompréhension chez les sénateurs Les Républicains, Max Brisson conteste la position présidentielle entre l'attentat de Mulhouse et l'échec d'expulsion d'influenceurs algériens, leur est au bras de fer.
Nous sommes constamment dans la discussion et nous recevons coup de pied au derrière sur coup de pied au derrière. Donc il faut de la fermeté. Je rappelle au président de la République que dans la Constitution, il n'y a pas de domaine réservé.
Façon encore de contester ce qu'Emmanuel Macron rappelle ces derniers jours. Seul lui peut décider de la politique étrangère. Le socialiste Patrick Kanner approuve et appelle à la retenue.
On veut un conflit généralisé, une rupture diplomatique, ça n'a aucun sens. Si les accords de 68 doivent être révisés, c'est à deux.
Premier responsable politique à avoir mis sur la table la fin des accords de 68, Édouard Philippe, aujourd'hui candidat déclaré pour 2027. L'un de ses proches, le sénateur Claude Malhuret.
Il faut que l'on rediscute de ces accords de 68 qui n'ont plus lieu d'être pour le faire de façon raisonnable, ou en tout cas essayer en ce qui nous concerne les Français.
Seul point d'accord de droite à gauche, demander la libération de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, toujours emprisonné en Algérie.
Raphaël Delvolvé.
On referme ce journal en musique, Marion, avec le deuxième album de Clélia Abraham.
Aux inspirations jazz, soul et aux accents créoles, pour rendre hommage à ses origines guadeloupéennes, Carmen Lunzmann nous présente cet album baptisé Atacama.
Piano qui s'envole et une artiste enracinée dans la culture de ses ancêtres créoles. C'est un dialogue entre ciel et terre qu'a imaginé Clélia Abraham à travers son nouvel album Atacama. Faisant référence au désert entre le Chili et le Pérou et ses nuits étoilées sans pareil, la jeune trentenaire décroche les étoiles aux touches de son piano. Entre l'intime et l'infini, Clélia Abraham fait naître sous ses doigts un monde métissé, nourri de sa propre enfance. Formée au violon et au piano classique dès l'âge de 4 et 7 ans, la Benyamine d'une famille de musiciens vire à 18 ans vers le jazz. Elle s'intéresse à la musique brésilienne, à la néo-soul et renoue avec ses racines antillaises héritées de son père. À travers cet album festif et introspectif où elle met aussi sa voix aux accents jazzy, pop et soul, cette passionnée du cosmos traverse les univers pour apporter sa lumière dans ce monde troublé et célébrer la beauté de la vie.
Atacama, le nouvel album de Clélia Abraham.
Et c'est notre choix musical aujourd'hui. On en reparle avec Carmen Lunzmann en studio juste avant 9h. Merci Marion Cazanov. 6h13 à Paris, RFI Matin, tout de suite le début de 3 heures d'information, notre tour du monde de l'actualité comme chaque jour et vos rendez-vous, chroniques, invités, reportages, nos journaux chaque demi-heure. Ce matin, on va parler de l'Ukraine, évoquée par Donald Trump lors de son long discours devant le Congrès hier soir aux États-Unis après l'échange glacial de vendredi dernier à la Maison-Blanche. Selon le président américain, Volodymyr Zelensky serait finalement prêt à signer un accord sur les minerais. Le dirigeant ukrainien qui hier a proposé une trêve dans les airs et en mer comme préambule à des discussions sur la paix en Ukraine. Pardon, nous appellerons notre correspondante à Kiev, Emmanuel Chasse, dans le journal de 8h. On va aussi parler ce matin défense européenne dans aujourd'hui l'économie, mais aussi avec notre invité international, l'économiste allemand Guntram Wolf. Autre sujet évoqué par Donald Trump, la guerre commerciale, jour de l'entrée en vigueur. Hier donc, des droits de douane contre le Mexique et le Canada. Ces droits de douane pourraient provoquer quelques perturbations dans l'économie américaine, admet le dirigeant républicain au Canada. La contre-attaque est lancée, parole de consommateur.
Je boycotte les États-Unis.
On ne mangera pas d'orange, on va manger des pommes du Québec. Ben pourquoi qu'on achèterait des autres, là, présentement, qui ont décidé qu'ils nous taxaient tout ça, alors non.
Reportage à écouter à 7h ce matin également, suite et fin de notre série de reportages en Côte d'Ivoire sur la modernisation et la professionnalisation, je vais y arriver, du secteur du clip vidéo musical. RFI également à suivre le sport, la suite aujourd'hui des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. La presse aussi, bienvenue si vous nous rejoignez. Et d'abord, c'est notre rendez-vous, la une en Asie. Ce matin, on s'intéresse à la Corée du Nord et à l'inquiétude formulée par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, au sujet de la production d'uranium enrichi du régime de Pyongyang, matériau de base pour la fabrication d'armes nucléaires. Et cela alors qu'au même moment, le régime menace les États-Unis d'augmenter sa production d'armes atomiques en réponse à ce que la Corée du Nord voit comme des provocations américaines. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Célio Fioretti à Séoul. Bonjour Célio.
Bonjour Andréane.
Alors quelles sont les provocations auxquelles fait référence la Corée du Nord ?
Eh bien, depuis le début de la semaine, Pyongyang est particulièrement irrité par l'arrivée au port de Busan, en Corée du Sud, du porte-avions américain USS Vinson. L'escale du navire de guerre est la première depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Une démonstration de force qui, pour les armées sud-coréennes et américaines, doit témoigner de leur alliance sans faille face à la Corée du Nord. Pyongyang a rapidement réagi au travers de Kim Yo-jong, la sœur du leader nord-coréen Kim Jong-un. Elle dénonce une provocation qui a pour but de mettre la pression sur le régime et prévient, je cite, de nouvelles actions contre ses ennemis si Washington et Séoul organisent des exercices militaires dont le prochain est prévu au mois de mars. Une menace américaine qui, selon elle, justifie que la Corée du Nord intensifie sa production d'armes nucléaires pour dissuader Séoul et Washington d'attaquer.
Et on le disait, l'Agence internationale de l'énergie atomique s'inquiète de la production d'uranium enrichi dans le pays.
Effectivement, le directeur général de l'agence, Raphaël Grossi, a déclaré lundi qu'il existait des signes indiquant que la Corée du Nord continue à exploiter des usines d'enrichissement de l'uranium sur son territoire, une violation évidente des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. À la fin du mois de janvier, le leader nord-coréen avait visité l'une de ces deux usines d'enrichissement, un déplacement que le régime a communiqué pour afficher son intention de poursuivre son programme nucléaire. Raphaël Grossi a demandé à la Corée du Nord de respecter le traité de non-prolifération ratifié en 1992 et de laisser les inspecteurs de l'agence visiter les centrales du pays pour connaître ses capacités nucléaires.
Alors justement, Célio, quelles sont les capacités nucléaires du régime nord-coréen ?
Alors, sans pouvoir visiter les usines d'enrichissement, il paraît assez difficile d'avoir des chiffres exacts, mais des estimations peuvent être faites à partir des images que le régime publie, par exemple. Le gouvernement sud-coréen estime que la Corée du Nord exploite entre 10 000 et 12 000 centrifugeuses, une capacité de production qui permet la fabrication de 10 ogives nucléaires par an. Au total, d'après d'autres estimations, le régime posséderait déjà une cinquantaine d'ogives nucléaires et la capacité d'en produire 50 plus.
Célio Fioretti, correspondant d'RFI à Séoul, en direct avec nous ce mercredi. Merci Célio, RFI Matin. Dans un peu plus de 10 minutes, le retour de l'info africaine. Et à 7h, tout à l'heure, on revient sur cette prise de parole, cette longue prise de parole de Donald Trump hier soir devant le Congrès américain. Il a notamment été question de l'Ukraine quelques jours après cette altercation glaciale à la Maison-Blanche avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a proposé hier une trêve avec la Russie dans les airs et en mer comme préalable à toute discussion sur la paix en Ukraine, et cela alors que les États-Unis ont suspendu hier leur aide militaire à l'Ukraine. L'Europe, elle, se prépare à un retrait complet de Washington dans ce dossier. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la veille d'un sommet européen extraordinaire à Bruxelles, vous nous parlez justement ce matin, enfin vous parlez défense européenne avec votre invité Guntram Wolf, économiste allemand, professeur à l'Université libre de Bruxelles.
Oui, c'est surtout lui qui va parler. Tant mieux, parce que pour l'Institut Bruegel, il livre une estimation chiffrée des besoins. Si l'Europe veut continuer à soutenir l'Ukraine et à se défendre, il va falloir investir et investir massivement. Pour une défense sans les États-Unis, l'Europe aurait besoin de 300 000 soldats supplémentaires et d'une augmentation annuelle des dépenses militaires d'au moins 250 milliards d'euros. Parce qu'en l'état, les Européens n'ont pas les moyens de prendre le relais des États-Unis. Exemple pris par notre invité, pour une dissuasion européenne crédible, il faudrait au minimum 1400 chars, 2000 véhicules de combat d'infanterie et 700 pièces d'artillerie. C'est-à-dire plus que ce dont disposent actuellement les forces terrestres françaises, allemandes, italiennes et britanniques réunies. Il faut donc faire un gros effort. Il sera question de tout ça demain lors du sommet européen extraordinaire à Bruxelles. Et dès hier, la présidente de la Commission européenne a proposé un plan de 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe. On en parle dans une heure avec Guntram Wolf.
À tout à l'heure, Arnaud Pontus. En France, à la porte de Versailles à Paris, non loin de nos studios, se tient un chantier au cœur d'une polémique, celui de la Tour Triangle, édifice qui, à terme, culminera à 180 mètres de hauteur, ce qui en fera le troisième plus haut sommet de la capitale française, derrière la Tour Montparnasse et la Tour Eiffel. Surtout destinée à accueillir des bureaux, la Tour Triangle est pointée tant par les riverains que par des élus qui dénoncent un gaspillage d'argent, une construction loin de toute considération écologique et un bâtiment qui ne s'inscrit pas du tout dans le style habituel parisien. Benoît Narbonne s'est rendu sur le chantier. Reportage.
Au milieu des grues, des bruits de chantier et de nombreux passants, la tour atteint déjà plus de 60 mètres. Tout en haut, les ouvriers travaillent sur le béton des étages à venir et plus bas, les premiers niveaux sont déjà intégralement recouverts de grands panneaux vitrés qui reflètent le ciel. Yueng a 23 ans et vit juste en face de la tour. Il est perplexe, tout le quartier est déjà très animé.
Ça fait vraiment différent de ce qu'il y avait par rapport à avant. Peut-être que ça va, j'allais dire, redynaminiser, mais il n'y a pas besoin, je pense. C'est déjà assez de mouvement, il y a tout le temps des trucs au parc d'expo.
Livrée, la tour fera 180 mètres. Il s'agira de la troisième plus grande de Paris. Le dernier bâtiment comparable construit dans la capitale est la tour Montparnasse. C'était il y a plus de 50 ans. Pour les urbanistes, construire en hauteur reste une solution d'avenir. Pietro Cremonini est architecte à Paris.
Dans toutes les villes d'Europe, il y a un léger regain des tours, mais tout le temps avec l'idée d'utiliser des terrains qu'on ne pourrait pas construire autrement. Une préoccupation écologique fait qu'effectivement, on émet l'hypothèse qu'on ne peut plus étaler la ville, qu'il faut trouver les moyens de la densifier, mais aussi de la densifier là où les infrastructures sont déjà là.
Pourtant, les tours ne font pas l'unanimité auprès des habitués du quartier. Sophie passe tous les jours par la porte de Versailles à vélo.
C'est choquant, c'est ce gros machin. Ce qui me gêne le plus, c'est la taille plutôt que l'architecture. Ça aurait été encore un truc de logement, mais il y a déjà trop de bureaux, etc. Donc je suis pas sûre de comprendre.
La tour Triangle sera en grande partie composée de bureaux, mais elle comportera aussi magasins et hôtels. Il reste encore un an et demi de travaux. Le projet a commencé après 10 ans de bataille juridique. Cependant, ce n'est pas forcément la tour que les riverains n'apprécient pas, mais son intégration dans le tissu urbain. C'est du moins ce que pense Pietro Cremonini.
Une tour qui s'implante à rez-de-chaussée sur un trottoir et sur lequel on peut accéder en tramway, en métro, c'est-à-dire une tour qui n'entraîne pas forcément des gigantesques parkings à ses pieds, c'est en fait que l'architecture moderne, puissante, haute, n'est pas incompatible avec une forme d'urbanité douce.
Si la Tour Triangle ne convainc pas les Parisiens, les travaux avancent désormais de façon visible. Pour la mairie de Paris, le bâtiment est une promesse de dynamisme économique et d'offres touristiques comparables à celles des grandes villes comme New York. Les visiteurs pourront profiter d'une vue panoramique à son sommet tout en sirotant leur café au bar.
Un reportage de Benoît Narbonne à Paris où il est 6h23.
RFI Matin.
On vous en parlait déjà hier sur notre antenne. Des incendies ravagent en ce moment la région d'Iwate, dans le nord du Japon. Quelques 2900 hectares sont déjà partis en fumée et la pluie qui a commencé à tomber hier donne une lueur d'espoir aux pompiers qui luttent activement contre les flammes. Feux de forêt, des étés de plus en plus chauds, des inondations nombreuses. À l'image du reste du monde, le Japon vit intensément les effets du réchauffement climatique mondial. Bonjour Lucille Gimbert.
Bonjour.
Le gouvernement japonais vient de présenter son nouveau plan climat avec un objectif revu à la hausse d'ici 2035, réduire de 60% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2013.
Oui, comme toute économie développée, le Japon a une responsabilité historique dans le réchauffement climatique et celle-ci perdure. L'archipel est aujourd'hui 8e émetteur mondial. En cause, sa grande dépendance aux énergies fossiles importées pour produire de l'électricité pour l'industrie et pour les transports.
Et la catastrophe nucléaire de Fukushima n'a pas arrangé les choses.
Non, l'accident nucléaire qui a suivi le séisme et le tsunami de 2011, a ouvert les yeux aux Japonais sur l'importance d'économiser l'énergie et sur les dangers du nucléaire, explique Masayoshi Yoda, porte-parole au Japon de l'ONG environnementale 350.org.
Après Fukushima, les gens ont cherché à maximiser l'efficacité énergétique des bâtiments, des écoles, partout au Japon. Et de nombreux groupes de la société civile ont lancé des projets communautaires d'énergie renouvelable dans leur ville.
local renewable energy project in their hometown.
Mais après le choc de Fukushima et ses 18 000 morts, le gouvernement a aussi fermé temporairement ses réacteurs et il s'est mis à construire des centrales à charbon et à gaz. Résultat, un pic d'émissions en 2013.
Malgré tout, Lucille, est-ce que les énergies renouvelables se développent ?
Oui, aujourd'hui, les lieux publics regorgent de publicité de l'État et d'entreprises qui vantent leur décarbonation via les énergies renouvelables et via le nucléaire. Et puis, il est commun de voir des panneaux solaires sur les toits. Entre 2013 et 2022, les émissions ont baissé de 19%. Mais cela ne va pas assez vite. Et d'après les scientifiques, le nouvel objectif de moins 60% d'ici 10 ans ne permet pas d'être dans les clous de l'accord de Paris.
Concrètement, qu'est-ce qui coince ?
Pour développer les énergies décarbonées, le Japon a fait face premièrement à un problème d'accès aux terres limité, mais il a aussi manqué de volonté politique, estime Anna Ako. Au sein du groupe de réflexion européen E3G, elle est spécialiste du secteur énergétique au Japon et elle revient de 7 années dans le pays.
Certaines grandes entreprises japonaises ont pendant longtemps plaidé pour continuer à utiliser les énergies fossiles. Elles ont priorisé des bénéfices à court terme liés à ce modèle-là. Cette façon de penser a eu une influence significative sur les politiques publiques et cela a ralenti la décarbonation et les objectifs et réglementations du gouvernement.
Selon le plan qui vient d'être présenté, le Japon veut développer et innover dans les panneaux solaires et dans les éoliennes en mer pour faire des renouvelables sa première source d'énergie d'ici 2040. Le gouvernement entend aussi rouvrir plus de centrales nucléaires, mais il se heurte sur ce sujet-là aux craintes d'une partie de la population.
Lucille Gimbert pour la question d'environnement. Allez, tout de suite, un peu de musique avant le journal sur RFI. C'est sur notre playlist ce mois-ci, le titre « Dans une case » par Mathieu Bougartz.
Dans une case tu m'as mis, dans une case tu m'as mis. Entre les moches, les petits, les cons, les finis, les gris, j'atterris. Dans une catégorie, et là je ne peux plus bouger, et là je ne peux plus bouger. Carrément calé, carrément collé, oui, carrément coincé. Dans la case où tu m'as gazé. Je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici. Mais c'est par où la sortie ?
Dans une case tu m'as mis.
Moi je dis c'est une erreur, j'ai rien à faire dans le secteur. Y'a pas la hauteur, y'a pas la longueur, y'a pas la largeur. Fallait pas appuyer enter. Quelle idée t'as foutu de moi ? C'est trop réduit, c'est trop étroit. Dans ta tête dure, combien je mesure, un tout petit poids. Ah ça c'est sûr, c'est pas la joie. Ainsi je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici. Mais c'est par où la sortie ? Dans une case tu m'as mis. Y aurait-il moyen de bouger un peu ? Je ne me sens pas bien dans ce petit creux, ce petit coin de ta tête où tu me retiens. Tu m'arrêtes, je ne deviens rien qu'une étiquette. Ce n'est pas malin, c'est bête. Dans une case et tu m'as mis.
Dans une case
et
tu m'as mis.
Dans une case et tu m'as mis.
Dans une case et tu m'as mis.
Dans une case et tu m'as mis.
Dans une case, titre de Mathieu Bougartz, à retrouver sur notre playlist ce mois-ci. C'est sur toutes les plateformes d'écoute et sur notre site rfi.fr. Vous restez dans une minute, le journal.
Dans une case.
Dans une case.
Dans une case, tu m'as mis.
Priorité santé, Caroline Paré.
Aujourd'hui, nous vous retrouvons au Sénégal, en Casamance, à la rencontre des acteurs de la communauté engagés pour la santé des enfants en situation de handicap. Et demain, toujours en Casamance, campagne de vaccination en milieu scolaire contre le papillomavirus.
Priorité santé
avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi, à partir de 9h10 TU sur RFI.
tout à l'heure sur RFI.
C'est pas du vent.
Il ne suffira pas de décarboner une économie mondialisée avec un développement supposé durable grâce à des technologies incertaines. C'est bien plus complexe, mais aussi beaucoup plus enthousiasmant. Nos invités réfléchissent depuis des années aux solutions pour former efficacement sur ces enjeux écologiques qui conditionnent l'avenir de l'humanité.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.